Oui, je suis très contente de partager avec vous mon expérience de 68, vraiment, et de partager avec vous l'évolution que j'ai faite, qui a été très marquée par ces années 68. Et donc, je vais vous parler de ma position de femme, heureusement qu'il y en a une. Enfin, heureusement que vous êtes là pour m'aider, les autres. Là, je suis heureusement pas trop isolée. Et de ma position de sociologue, à l'époque j'étais sociologue et je suis devenue thérapeute de famille. Et je vous dirai pourquoi il y a une certaine cohérence dans mon évolution qui n'est pas une trahison de ma profession. Donc, j'ai vécu les événements de mai 68, alors que je travaillais déjà en sociologie de la psychiatrie. Et donc, je me suis engagée dans le mouvement contestataire grâce à mon premier mari, parce qu'il y en a eu plusieurs. c'était mon compagnon à l'époque, et qui était assistant en sociologie et très actif dans le mouvement. Donc, j'étais pas aussi active que lui, j'avais pas la facilité donc de parole que lui, mais j'étais observatrice participante et vraiment très participante en fait. Et j'étais pas la seule femme qui à l'époque ne prenait pas la parole, et j'avais l'impression que c'était quand même difficile pour les femmes à l'époque de prendre leur place. Peut-être qu'on ne leur donnait pas la place non plus, mais j'avais été frappée à l'époque combien la position de la femme était déjà, enfin était à l'époque très, quand même, une position assez dépendante, quoi. Donc, à cette époque, j'ai vraiment eu l'impression de vivre la grande histoire. Donc, c'était quelque chose pour moi extraordinaire. Et tout en continuant à vivre la petite histoire, ma vie privée, mais ça a été pour moi un bouleversement dans ma vie, vraiment. C'est à partir de ce moment-là, ça c'est une réflexion que j'ai toujours continué à faire tout au long jusqu'à maintenant. J'ai vu, là, à ce moment-là, j'ai vécu les liens entre le macro-social et le micro-social, entre le politique et le privé. Et ça, j'étais très, vraiment questionnée par ce lien qui m'a beaucoup marquée. Donc, j'ai commencé à cette époque, en effet, à déconstruire toutes mes idées, en fait. Enfin, c'était bien le... Dans le mouvement de contestataire, on déconstruisait toutes nos valeurs, la plupart de nos valeurs, et donc on questionnait le rapport au père, à l'autorité, à la hiérarchie, et à certaines hiérarchies qui semblaient aller de soi finalement, entre autres dans les rapports... entre les hommes et les femmes. Il y avait quand même, à cette époque, dans les grandes assemblées, les hommes qui parlaient et qui avaient une position, pour moi, hiérarchique et qui était difficile, mais en tout cas qui a interrogé les femmes. Et je pense que ça les a fait... Enfin, moi, ça m'a fait bouger. Parce que donc j'étais là à ce moment-là, donc il y avait cette remise en question du rapport du père, de l'autorité, de la position soumise en guillemets de la femme. On remettait beaucoup en question la sexualité, fermée sur le couple, la fidélité, et donc on a remué beaucoup ces idées qui étaient à l'époque. Des évidences. C'est à ce moment-là, je dois dire, que je suis devenue assez allergique à toutes les prises de pouvoir. J'avais l'impression quand même que dans ces grandes assemblées, il y avait des grandes confrontations et des grandes prises de pouvoir certains leaders. Et je dois dire que là, j'étais assez réfractaire à ce rapport, à ce moment-là, entre hommes et femmes. Professionnellement, dans le milieu psychiatrique où j'évoluais, je suis devenue vraiment militante de l'antipsychiatrie. Donc je questionnais finalement le rapport comment au fond on définissait la maladie mentale, qui décidait que quelqu'un était normal ou pathologique. Donc on a beaucoup remis en question ces normes je m'interrogeais, mais finalement, quelles sont les instances qui désignent le patient et le malade. Donc c'est dans la suite, ça m'a beaucoup marqué, parce que dans la suite, en tant que thérapeute de famille, justement, j'ai toujours lutté contre cette définition d'un membre malade. En fait, j'ai toujours lutté pour dire qu'il y avait un malade désigné qui avait un sens et une fonction dans la famille. J'ai écrit à cette période un article sur la pratique psychiatrique et les classes sociales. Et là, j'avais vu que plus on montait l'échelle sociale, plus le thérapeute donnait du temps aux patients. Et finalement, j'aurais aimé donc transmettre ces idées aux personnes directement concernées, mais finalement ça s'est pas fait. Les gens l'ont mis dans le tiroir, et donc c'est pour ça que dans la suite j'ai changé ma perception de la sociologie, et je me suis engagée plus dans une sociologie justement engagée. Je suis passée d'une sociologie plus savante à une sociologie engagée, où j'ai essayé d'adapter la pensée de Paulo Freire. Je ne sais pas si vous le connaissez, oui. N'est-ce pas? Je pense, hein, bien sûr. Donc, ça a plus de gauche.
Dis un mot pour s'il y en avait qui connaissent.
Donc, c'est un Brésilien qui a beaucoup travaillé dans le Nord-Est, hein. Brésilien, enfin, il y a une Brésilienne là qui. Oui, hein. Peut-être que je peux plus en dire, mais en tout cas, j'avais été très, très touchée par son livre sur la pédagogie des opprimés. Et donc, je m'étais dit, je vais adapter cette pédagogie dans un milieu ouvrier de la chimie. Alors, on est avec des amis, donc... Il y avait un physicien, un ingénieur, enfin de l'inspection du travail, qui ont décidé avec moi de créer un petit groupe avec des ouvriers de la chimie chez Firminich, pour ne pas les nommer. Et on a vraiment co-construit une réflexion avec les ouvriers, une réflexion et une action sur les mesures de protection au travail. Et là, il y avait entre autres un ouvrier parmi le groupe qui avait été victime d'un grave accident. Et donc, on a vraiment co-construit quelque chose ensemble. Et nous avons donc adressé un rapport à la direction de Firminich. Je ne me rappelle pas vraiment l'effet que ça a pu avoir. Mais en tout cas, il y avait eu quelque chose de très fort qui s'était passé entre nous et les ouvriers. Un autre domaine où les idées de 68, c'est plutôt les années 70, où finalement c'était les conséquences déjà de toutes ces remises en question. Et finalement, avec un groupe de pédagogues, on a essayé d'introduire de nouvelles pédagogies. Enfin, c'est très prétentieux, mais enfin, on a essayé d'introduire dans l'école d'architecture. On a travaillé avec des groupes d'étudiants où on remettait en question tous les rapports d'autorité entre les enseignants et les étudiants. Et donc, où on a essayé de repenser ces rapports et on a essayé de voir comment partager finalement nos compétences et nos savoirs. Ce qui était quand même assez nouveau, donc, parce qu'avant c'était ex cathedra, etc. Et là, on a vraiment essayé de voir comment on pourrait avoir une relation égalitaire avec les étudiants. Et là, en tout cas, ça a eu une répercussion très claire sur moi dans la suite, puisque j'étais formatrice en thérapie de famille, et donc dans toute ma vision de la pédagogie, j'ai essayé d'être très à l'écoute de ce que les étudiants pouvaient me dire et vice-versa. Je pense que l'enseignant et l'enseigné, finalement, étaient très fluctuants et ça, c'était une dynamique entre nous qui a été très importante pour moi. Donc, c'est à cette époque que j'ai milité dans le MLF, en années 70, hein, où j'ai participé au mouvement de conscientisation des femmes. Et là, c'était donc c'est dans cette idée de se réapproprier notre corps, notre pensée. Et là, j'ai eu l'impression que j'étais dans un mouvement d'autonomisation dans mes réflexions et mes soit politiques ou autres. Donc, dans ma vie privée, en effet, il y a eu pas mal de chaos, non, mais en tout cas de répercussions de ces années de 68. Déjà dans mon couple avec mon compagnon de l'époque, j'ai milité déjà pour un partage des tâches ménagères et on a créé avec Bernard un groupe, on a co-créé un groupe de couples où le but c'était de débattre nos contradictions hommes-femmes, c'était l'idée de parler de la libération sexuelle, on se voyait régulièrement. Et je dirais que toutes ces remises en question m'a valu un divorce, enfin je vous dis. je dois dire que j'ai ma position par rapport au divorce, je me disais, mais finalement, c'est une construction. Non, ça a été plutôt quelque chose, une croissance. Alors qu'au départ, je me disais, bon, c'est pas génial d'en arriver là, mais enfin bon. Je pense que quand même, là, il y a eu un impact important de ces années 68-70. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Ah oui, dans ma vie citoyenne, j'ai milité aussi pour une autogestion dans le quartier de Plainpalais, où il s'agissait de redonner le pouvoir aux habitants. Donc, on a fait toute une action pour sauver quelques arbres.
qui restent.
Et alors, comment ?
Route ne passeront pas.
Voilà, exactement. Donc, on était des écolos déjà avant l'heure. Non, c'était assez engageant.
Il y avait qu'une terre dans
la... Ah, voilà, exact. Oui. Donc, tout au long de ces années, j'ai été habitée par une grande question, vraiment, de savoir, mais finalement, c'est la question du changement. Qu'est-ce qui amène le changement et comment réaliser le changement? Et j'ai découvert en tout cas que ce n'était pas mes recherches sociologiques savantes et critiques qui amenait un changement, d'autant plus qu'elles n'étaient pas lues. Donc, elles étaient mises dans le tiroir. Mais bien plutôt mon travail sur les petits groupes, dans les petits groupes. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de m'orienter vers le travail avec les familles comme thérapeute de famille. Et avec l'idée du changement, comment créer le changement. Donc, c'était en 77 où je me suis formée à la thérapie de famille d'orientation systémique, mais je dois dire, ça peut faire bondir certaines personnes, mais je dois dire que j'avais aussi intégré donc tout ce qui est l'environnement sociopolitique et donc je suis devenue, si on peut dire, une ethnologue de la famille qui était éclairée quand même par mon expérience politique féministe quand même dans, et de thérapeute, oui, mais quand même avec beaucoup d'engagement en m'interrogeant sur la position de la femme dans la famille et aussi les rapports de pouvoir aussi dans la famille. Donc c'est systémique, c'est pas seulement rapport égalitaire entre les gens, etc. Pas du tout. Donc en tout cas dans mon esprit. Donc là, à cette époque, j'ai lutté pour comprendre et faire comprendre que le problème ou un symptôme psychiatrique devait se situer dans un contexte et se décoder dans un contexte sociopolitique. Et pour moi, c'était très important de voir quelle fonction le patient pouvait avoir dans la famille. Et là, j'ai pas mal cherché. Donc c'était vraiment une grande préoccupation pour moi de me dire, mais comment passer d'un déterminisme lié à la famille, ces enfermements qu'on peut vivre dans les familles, comment aider ces gens à se libérer des chaînes et des chaînes de la répétition des familles. Donc, toute ma question à l'époque, c'était de me dire, mais comment dépasser les déterminismes vers plus de liberté? Comment dépasser les réductionnismes vers plus de complexité? Et c'est pour ça que j'avais toujours beaucoup de peine à m'engager dans un groupe dogmatique, parce que ça, je ne pouvais pas adhérer à quelque chose de restrictif, et alors que pour moi le fondement c'est de pouvoir arriver à la complexité et donc à comprendre l'humain aussi dans sa complexité. Donc là, de ma position de passive, j'ai commencé à être vraiment actrice de mon changement et d'aider les gens à être acteurs de leur changement aussi. Donc, je dois dire que mai 68, dans ce sens-là, m'a énormément bousculé et j'ai découvert quand même, parce qu'il y avait souvent cette critique que le privé, le psychologique, c'était pas à la hauteur du politique. Et pour moi, j'ai découvert que le privé est politique. Et qu'il n'y a pas, s'il y a un lien fondamental entre le politique et le privé. Donc pour moi, ma pratique quotidienne est politique. Et il y a une politique de la famille, donc pour moi, c'était clair qu'il y avait un lien entre le macro-social et le micro-social. Et que ça, c'est encore une question que je pose et que je pousse dans ma vie, où je réfléchis. Donc ma lutte actuelle se poursuit précisément dans une transmission de cette vision sociopolitique du trouble psychique. Ça c'était c'est ma thèse. Quand même, hein,
la thèse.
Ma thèse, enfin c'est mon cheval de bataille. Donc et actuellement je travaille dans une équipe très psychanalytique Et c'est pour moi quelque chose de fondamental de leur montrer que on est pris dans un contexte sociopolitique et qu'on doit en tenir compte. Alors qu'ils seraient plutôt à limiter les choses dans leurs relations, dans leur cabinet du thérapeute aux patients. Au niveau social, j'ai participé à une commission qui a réfléchi sur la violence domestique, où Lucienne était, j'ai co-élaboré une loi contre la violence conjugale. Et de nouveau, c'est finalement dans ma pratique privée de thérapeute, j'ai pensé que c'était fondamental de travailler aussi au niveau du politique et du social. Je dois dire qu'actuellement, je suis dans cette lutte, cette notion de déconstruction quand même, je pense que c'était déjà à l'époque de 68, on déconstruisait tout et pour moi, la lutte continue. Enfin, je cherche à déconstruire mes préjugés, les préjugés de tous ordres, et entre autres les personnes âgées. Donc, comme j'entre dans la tranche des personnes âgées, n'est-ce pas? Donc, c'est très important d'arriver à remettre en question ces notions, ces toutes faites sur les personnes âgées. Je poursuis ma lutte aussi en... Comment les vieux? je poursuis aussi ma lutte en transmettant à mes enfants mes valeurs, des valeurs pour moi fondamentales d'humanité, de solidarité, de lutte sociale et d'esprit critique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'espère qu'ils vont poursuivre la lutte. Oui. Et donc, finalement, ma militance, disons, à moi, c'est justement de lier l'individu et son environnement, le micro, le macro-social, et de montrer que tout est lié. Donc, et pour moi, je pense que 68 m'a ouvert les yeux sur ces liens. Et ma lutte c'est aussi de permettre dans ma pratique thérapeutique de permettre à l'individu de pouvoir devenir acteur de sa vie, alors que souvent quand ils viennent en thérapie ils sont pris dans leur position et pris dans le système et n'arrivent pas souvent à être libres d'avancer. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. À part, c'est vrai, mais je pense que ça, on pourrait en reparler. Donc, tu me rappelais que j'avais été à Paris, c'est vrai. Donc, c'était à l'époque de l'ordre nouveau. J'avais été prise dans le mouvement d'opposition à l'ordre nouveau. Et on avait
Madeleine.
Été... Hein?
Madeleine.
Oui, c'est ça. Et donc, à un moment donné, les CRS sont chargés. Moi, j'étais absolument terrorisée. J'étais prise dans un cul-de-sac et j'ai reçu quelques coups de matraque qui m'a amenée à l'hôpital. Mais donc, c'est anodin pour moi par rapport à quand même tout ce que ces mouvements de pensée que mai 68 a représenté pour moi. Et combien ça m'a marqué dans ma vie. Et alors, je suis très reconnaissante à Marielle de nous avoir posé ces questions parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine de voir les répercussions de mai 68 sur nous et sur notre révolution, parce que pour moi, c'était très clair qu'il y a eu quand même un impact très, très fondamental sur ma vie. Voilà.
Merci. Merci.
Merci, Berlis. Est-ce que, question de précision, est-ce qu'il y a
une ou deux questions de précision.
C'est bien d'ouvrir la discussion à la fin.
À la fin. Oui,
oui, oui, oui. Vas-y.
Moi, j'ai noté un certain nombre de choses.
Pardon.
J'ai noté un certain nombre de choses.
Ah,
que
alors, et puis, Ivar, alors, il a découvert un dessin. Hein, de...
Oui, justement, du mouvement de... J'ai dessiné ça. Dans nos publications, le premier
sur le combat pour les espaces verts continue à plein palais en 1972.
C'est génial. Ah oui, d'accord.
On peut faire circuler, là, c'est la publication information.
Ah, d'accord. Ah oui, oui, c'est génial. Oui, oui, c'est ça.
Oui, oui,
ah oui, d'accord.
Bon, excusez-nous, mais même si ça peut circuler, peut-être.
Le faire juste
cette oui, il faudra qu'il se mette là. Mais à mon avis,
non, pourquoi il le
fait? Pour qu'il voit les gens ici.
Non, mais je les vois.
Tu les vois?
Alors, je vais donner la parole à une
personne. Marie-Anne,
ah oui, oui, pardon. Ah, juste que, donc. Jeanne Thiébault.
Au revoir, René.
Salut, René.
Au revoir, René.
Bonsoir. C'est pas très discret, hein.
Ah, pourtant.
C'est la faute au pasteur Creuse.
Ah, ouais, c'est ça.
Juste dire que Jeanne Thiébault, qui a été Madame Peterson longtemps, nous a envoyé un message d'Amérique où elle dit qu'elle a été en mai 68 à Paris et que c'est l'un des plus beaux souvenirs de sa vie et qu'elle avait pris un train pour Paris, qu'elle s'était rendue au quartier latin et qu'il y avait beaucoup de gens dans les rues et tout le monde parlait et il y avait une immense conversation non-stop. Et elle s'approchait des gens, elle disait « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai reçu des réponses si intéressantes, si passionnantes. L'ambiance était extraordinaire. Les Français avaient marre de métro boulot dodo. Ils avaient besoin de parler, d'échanger des projets, des idées et de jouir d'être ensemble dehors, libres de s'exprimer. Imagination au pouvoir. Et après cette visite à Paris, elle est retournée à Genève, pleine d'inspiration et d'énergie, et très mûre de faire partie du grand projet de la contre-culture et de la naissance de l'alternative. Et elle a rencontré Ivar en 70. Elle évoque toutes les luttes où elle était avec toi à cette époque. Alors Ivar parlait fort pour aller jusqu'au bout. Oui.
Alors je voudrais quand même recommander qu'on ne dépasse pas trop. Là, c'était plus qu'une demi-heure.
Normalement, moi-même
ouais. On avait prévu 15 minutes, mais bon, on sait bien que ça déborde toujours.
Ah oui,
heureusement qu'il n'y a que 3 personnes.
Bon, on y va alors.
Alors, je voulais tout d'abord remercier Marielle. Ben, nous nous connaissons d'ailleurs depuis très longtemps, parce que j'habitais encore à Montreux quand j'ai connu Marielle. Là, j'étais un membre fondateur du cartel des jeunes de Montreux. Et puis j'avais été une réunion de toute la Suisse romande. Moi, j'avais 18 ans, donc c'était connu à cette occasion. C'est assez intéressant de voir que les liens, les actions continuent, quoi. Et donc, en 68, j'ai eu beaucoup de chance parce que donc, moi, je suis tapissier décorateur et je travaillais à Genève depuis l'automne 67. Et en avril 68, j'ai été appelé par l'IRG, l'International des résistants de la guerre, à reprendre durant 3 mois le poste de secrétaire de l'IRG. Donc c'était un mouvement qui était élargi à toute la Suisse, qui avait 30 000 adresses, donc un journal dans les 3 langues, et qui était à la base de pas mal d'actions antimilitaristes à l'époque. On était d'ailleurs souvent très peu nombreux. Avant 68, on n'était pas plus qu'une dizaine, très souvent. Des actions d'ailleurs assez cocasses comme à Sion où ils avaient mobilisé 100 policiers et nous on était à peine 7 ou 8.
Ouais. Et là, on avait, à la gare, j'ai vu qu'il y avait un rideau de policiers. Je me suis tout de suite dit, c'est pour nous. Et vu que j'habitais à Montreux, je savais assez faire les accents comme ça. J'ai avisé un armaïf, une sorte d'armaïf avec une grande barbe et tout. Je me suis mis à côté de lui en prenant l'accent valaisan. Puis j'ai passé comme ça, en marchant comme ça. J'ai réussi à passer tout droit avec, je sais pas, 3000 tracts et tout. Et puis là, on avait trouvé des jeunes de Sion, parce qu'en plus, ils avaient fouillé toutes les classes en dessus de 13 ans, et ça va alerter les jeunes de Sion. Donc du coup, quand on les approchait, ils étaient très intrigués, puis ils ont tout de suite relayé, on leur donnait des tracts, etc. Ils ont été chercher des valises vides chez eux et tout, puis ils marquaient merde pour les flics dans la valise. Ils se faisaient rembarrer chez eux et tout. Enfin, il y avait je dois dire, dans le mouvement de mai 68 et après, moi, j'ai toujours essayé d'associer un côté aussi ludique à l'action et tout. Ben, c'est vrai que c'était des fois assez cocasse. Et dans cette manifestation, enfin plutôt cette distribution de tracts, heureusement que je courais assez vite à l'époque, parce qu'on était poursuivis par les policiers, et je connaissais par chance la vieille ville, et je m'étais réfugié à l'époque chez l'abbé Lugon, et 20 minutes après, on a été distribué des tracts devant le poste central de police à Sion, parce qu'il me disait « là, il n'y aura au moins pas de policiers », et c'était vrai, quoi. Alors juste des petites anecdotes comme ça. Donc après, j'ai eu beaucoup de chance parce que donc, je remplaçais Fritz Tuller, qui était le secrétaire, donc qui était pour 3 mois en tôle pour objection. Et ces 3 mois sont tombés sur avril, mai, juin 68. On ne pouvait pas faire mieux, quoi. C'est-à-dire que j'étais plein temps dans le mouvement, quoi. Et en avril, la première chose qu'on avait faite à Lausanne, c'est qu'on avait monté un petit groupe libertaire, d'ailleurs avec Aristide Pedrazza, qui est toujours actif, qui s'appelait Fédération Socialiste Libertaire. Et maintenant, c'est Organisation Socialiste Libertaire, qui n'existe d'ailleurs plus à Genève, mais qui continue à Lausanne et dans le Jura et ailleurs. Et en avril 68, j'étais à Paris et pour la première fois, j'ai vu les CRS qui chargeaient d'ailleurs des manifestants pour Rudi Dutschke. Donc Rudi Dutschke en Allemagne avait été victime d'une tentative d'assassinat. Et il y avait un rassemblement de protestation qui a été interdit par la police. Et en avril 68, mai 68. Et j'ai vu peut-être à 300, 400 mètres les policiers qui chargeaient. Puis il y avait des gens qui me disaient, ouais, faites attention, retirez-vous un peu et tout. Puis on s'est tiré. Mais après, quand il y a eu tout le mouvement de 68, disons, j'ai bien senti toute cette ambiance déjà en ce moment-là. Et à Genève, donc par un autre coup de chance, la Société Suisse des Officiers, ou je ne sais pas qui, a organisé des journées de défense nationale en plein mois de mai. Et donc, nous, on se réunissait à Genève, on était peut-être 5 ou 6, je ne me souviens plus si Marielle était aussi avec nous à ce moment-là, ouais, c'est possible. Et puis, en fait, on s'était limité à des distributions de tracts au début, et ça avait duré, il me semble, une semaine. Et puis tout à coup, il y a eu le mouvement de mai 68, une répercussion énorme aussi à Genève. Et on s'est trouvé, quelques jours après, 1 000 000 dans la rue. Il y a eu le 17 mai, où il y avait un rassemblement donc, sur la place, la place Neuve. Et puis là aussi, c'était interdit par la police. Donc là, on était invités par les étudiants et par Marguerite, notamment, à entrer à l'université. Et puis, c'est là où on s'était connus, d'ailleurs. Et puis, en fait, c'était mon premier contact avec le monde étudiant, quoi. Et là, effectivement, il y avait ces grands débats et tout. Alors, nous, évidemment, on les pigeait pas énormément, quoi, disons, parce que là, ça volait très haut, comme ça, avec des grandes explications et tout. Mais nous, on avait quelques tracts anarchistes, et puis il y avait d'un coup des étudiants qui disaient « Attention, il y a des tracts anarchistes !» Et puis, en fait, ça a fait effet contraire, parce qu'il y a un tas de gens qui sont venus vers nous « Ah, donnez-nous les tracts, etc. » Alors, nous, on a tout de suite saisi le truc. On a aussi donc distribué par rapport à la journée donc de la défense spirituelle au Victoria Hall, je pense que c'était le lendemain. Et puis là, on avait donc discuté avec des leaders là du 17 mai pour organiser le blocage du Victoria Hall. On est arrivé à bloquer le Victoria Hall. En fait, les policiers, ils avaient tellement la trouille qu'on risquait d'entrer dans le Victoria Hall, qui bloquait même les gens, les braves gens, les braves bourgeois de Genève qui voulaient assister à cette conférence, quoi. Et dans la salle, il devait être, je pense, une quinzaine de galonnés avec quelques journalistes et quelques officiels, quoi, à peu près, c'est tout. Et dans ce rassemblement autour du Victoria Hall, il y avait un tract qui était distribué. Il y avait donc deux tracts. Il y avait le tract de l'IRG et puis un autre tract qu'on avait préparé. Ben, j'habitais en ce moment-là à Lausanne et puis qui avait été terminé par un poète breton que j'avais hébergé, qui était déserteur, quoi. Et puis lui, avec des formes comme ça, poétiques, il avait marqué à la fin « Recrue, futur recrue, déserté, ce qui symbolise votre fin, la fin de l'humanité ». Et évidemment, au niveau des autorités et tout, ils cherchaient qui était le leader de tout ça et tout, et puis ils cherchaient un prétexte. Et ils ont pris ce tract comme prétexte pour, c'était au niveau du ministère public de la Confédération, Hubert, pour nous intenter un procès pour atteinte à la sécurité militaire, incitation à la désertion, quoi. Et là aussi, par chance, je pense qu'ils ont cherché d'abord à Genève et tout, et puis ils ne se sont pas rendus compte qu'on était tout de suite qu'on était à Lausanne, parce qu'ils ont débarqué à 6h ou 7h du matin à Lausanne. Je revenais d'ailleurs le soir même du congrès international anarchiste à Carrare, où il y avait tous les mouvements anarchistes internationaux. Il y avait jusqu'à des Japonais, il y avait des Sud-Américains et tout. Et il y avait Daniel Cohn-Bendit, donc j'ai connu aussi en ce moment-là, quoi. Et j'étais arrivé à 10h ou 10h30 du soir, et puis boum, le matin, je pensais que c'était la concierge à côté. Trois flics, comme ça, mandat, procureur, enfin, ministère public de la Confédération, tout, perquisition et tout. Et puis là, encore autre chance, c'est qu'un mois avant, j'avais encore un fichier, enfin des fichiers de 30 000 adresses de l'IRG. Si ils avaient saisi ça, on aurait été assez emmerdés, quoi. Alors bon, j'ai pu planquer mon carnet d'adresses, et puis le reste, bon, c'était de la paperasse, quoi. Et puis après, bon, ils m'ont interrogé et tout. Et puis, bon, après, j'ai vu, effectivement, dans les fiches, on était vraiment suivis à la trace, quoi. Alors, tout ce qui est manifestation publique, ça servait à rien de nier. Alors, ils me disaient, par exemple, ouais, pourquoi vous étiez à des manifs avec les Espagnols, c'était violent, quoi, parce qu'ils avaient castagné les flics à l'époque.
Et inversement,
bien sûr, ouais. Mais moi, ce que je leur avais dit, ouais, mais si on était plus de militants non-violents, peut-être qu'il y aurait moins de violence dans ces manifestants. Alors, je trouvais toujours des réparties. Ça fait qu'au procès, donc une année après, ils n'ont pas pu me coincer et j'étais acquitté. Puis là, autre coup de chance, le procès, donc en octobre 69, est tombé au moment où il y avait une distribution tout ménage du petit livre de défense civile.
Le petit livre rouge.
Le petit livre rouge, oui. Qui était, malheureusement, je n'ai
pas... Non, gris, vert.
Il était, oui, peut-être vert de gris, oui. Il était vert de gris. Oui, c'est ça, oui. Vert de gris. Alors, j'en avais deux, mais je les avais prêtés à la maison du quartier. C'était en octobre 69, quoi. Et là, Maintenant, disons, on se plaint de Blücher et compagnie, mais à l'époque, c'était encore pire, quoi. Mais c'était vraiment gratiné, c'est-à-dire que dans l'organigramme, par exemple, des mouvements qui étaient censés être contrôlés par Moscou, tu avais jusqu'à des mouvements de femmes, jurassiens, mouvements de jeunes, etc., quoi. Ça fait que ce bouquin avait provoqué un tollé jusque dans les médias, quoi. Et quand il y a eu le procès, c'était à Montbenant, la salle était comble. Et le soir même, on a monté un comité contre ce livre de défense civile avec 300 personnes, en tout cas, à la Maison du Peuple. Et une semaine après, on a remonté un autre comité ici à Genève, quoi. Alors, sur 68, je pense que j'étais un des seuls à avoir eu, ensuite des conséquences au niveau judiciaire, mais bon, qui sont bien, on peut dire qu'ils sont bien terminés, mais ça a permis de rebondir et d'élargir le mouvement, quoi. C'est toujours ce qu'on espère, et c'est ce qui est d'ailleurs beaucoup plus difficile dans le contexte actuel, quoi. Et donc après 68, ce que je m'étais, donc là j'ai eu beaucoup de chance aussi au niveau, on peut dire, formation militante, parce que j'ai hébergé un camarade français que j'avais rencontré à Carrare, Raymond Sekeli, que James Cartier avait aussi bien connu, parce qu'il l'avait aussi hébergé par la suite. Et vu que moi j'avais fait que l'école primaire et tout, donc ça m'avait permis de compléter ma formation, d'avoir des cours de marxisme, des cours d'anarchisme, et puis aussi introduction au végétarisme, quoi. Toutes ces problématiques, disons, c'était une approche globale, ouais, pendant à peu près 6 mois. Et pendant la période où Raymond Sekeli était là, On avait monté un groupe de très bon niveau, donc on avait sorti deux numéros du Réveil anarchiste. Donc je rappelle que le journal Le Réveil anarchiste était le journal du mouvement à Genève, qui était fait par un typographe d'origine tessinoise, Luigi Bertoni, entre 1900 et 1947. Et puis ensuite, le mouvement à Genève s'est, pour ainsi dire, effondré. Enfin, les vieux ici, dont André Buziger, étaient très dispersés, quoi. Et c'est nous qui avions relancé. On avait relancé avec toute une réflexion, notamment par rapport au pillage du tiers-monde, donc l'argent qui était planqué dans les banques suisses. Et je me souviens qu'un des dialogues qu'on avait eu les plus intéressants, c'était avec Jean Ziegler, parce que lui, il avait vu cet article, il avait dit ben, « Là, ça c'est quelque chose, ça c'est une piste ». Et puis là, ça l'avait encouragé dans toute sa démarche, quoi, et tout. Et je veux dire, bon, je connaissais un peu la problématique du tiers-monde, parce qu'en 65, j'avais 20 ans, d'ailleurs j'étais en Algérie, dans le cadre d'un jumelage. On travaillait avec des équipes de jeunes du coin, des travaux d'aménagement, de réfection, et on faisait de l'animation aussi, on faisait des débats par rapport à... Enfin, j'avais découvert l'autogestion donc en 65, et là, donc 2 ans après, quand on était revenu, là, on était beaucoup mieux documenté, et là, on avait des débats quasiment avec avec une centaine de jeunes, d'habitants et tout. C'était une période très, très intéressante, à tel point que les autorités là-bas, ils avaient eu la trouille, et puis ils avaient fait venir des gars depuis Alger pour essayer de reprendre en main là-bas, parce qu'il y avait une dynamique qui s'était mise en route avec les jeunes du coin, parce que évidemment l'autogestion, ça voulait dire d'encourager l'initiative de base. Et puis dans tous les régimes autoritaires, et c'était le cas en Algérie, évidemment l'État voulait tout contrôler, et puis chaque initiative devait être soumise avant aux autorités. Enfin bref, c'était un petit aparté pour dire un peu que mai 68 n'est pas resté qu'en Europe, il y a aussi eu des répercussions partout, quoi, dans le tiers-monde, avec des échanges très, très intéressants à ce niveau-là, quoi. Et après le départ de Raymond Sekeli et puis deux ou trois autres camarades, on s'est retrouvés à Genève pratiquement isolés au niveau libertaire, parce qu'il y avait justement des gens, mais qui n'étaient pas très bien formés, qui étaient André Beziger, par exemple, lui, il avait fait beaucoup d'actions dans les années 30 et tout, mais il n'y avait plus une véritable base sociale pour mener des actions à ce niveau-là, quoi. Et donc, en rencontrant Jen, on est reparti d'actions beaucoup plus, je dirais, basiques, qui étaient les repas populaires. Donc c'était une fois par semaine au centre de loisirs de Carouge, où on était en général une quarantaine en moyenne. Et puis de là, donc on organisait de temps en temps des exposés, débats. Et ça servait de base au mouvement anti-nucléaire, par exemple, quand il y avait les occupations à Kaiserhaus, plus tard aussi à Malville, de coordonner avec les gens qui avaient des voitures, qui avaient des places et qui cherchaient à aller sur les lieux. Et puis, à quelque part, c'était une nouvelle façon de militer, disons, en dehors de groupes, et même au niveau libertaire, disons, il y avait des risques aussi de dogmatisme, donc avec une pratique, disons, plus large, comme on l'avait instaurée avec les repas, ça permettait beaucoup d'opportunités. Et c'est là qu'on rédigeait, on peut dire, pour le deux tiers, la publication Information et Contact, là, que j'ai fait circuler dans le classeur, là, parce que les gens qui faisaient partie de mouvements de quartier ou d'expériences écologiques ou de groupes antinucléaires, et j'en faisais aussi bien sûr partie, nous apportaient des informations. On les rédigeait, puis ensuite, la semaine suivante, on soumettait les articles, et ensuite on faisait le journal, et puis en même temps, les repas servaient pour la distribution. Donc il y en avait qui en prenaient 5, d'autres 10, etc. Et puis ça roulait bien dans cette période. Maintenant, peut-être le Gervaise pourrait devenir un lieu un peu comme ça, mais pendant longtemps, un tel lieu, je dirais relativement comme ça, comme base informelle, manquait énormément, quoi. Et d'où un certain éclatement qu'il y a eu à Genève pendant toute la période des années 80-90, quoi. Mais dans cette période, c'était extrêmement intéressant. Donc c'était la période où il y avait donc aussi le premier squat autogéré, donc le prieuré. Et avec Jen, on s'était occupé de la cuisine populaire. On servait plus d'une centaine de repas par jour. Et vu qu'on avait instauré un principe de trois nuits pour les gens de passage, donc ceux qui voulaient rester plus longtemps devaient faire partie d'un groupe de travail. Et donc la cuisine populaire, il y avait même deux groupes. Il y avait le groupe midi, le groupe soir. Et on avait donc le groupe Réseau Ville Campagne, qui était très, très intéressant, parce que là, on organisait donc des travaux à la campagne chez les agro-bio, qui ont toujours besoin de main-d'œuvre, soit pour sarcler, soit pour récolter les fruits ou couper les salades, etc. Et puis là, on faisait ensuite une évaluation. La période intéressante du prieuré, c'était entre mars et fin juillet 1972. Ensuite, on était complètement envahis. D'une part, ceux de Genève, beaucoup sont tirés en vacances, quoi, fin juillet. On s'est retrouvés plus que peut-être 5 ou 6 de l'équipe initiale. Et puis, la police, tout le monde nous envoyait, tous les gens qui traînaient dans les parcs, allaient au prieuré, etc. Donc, tout le système qu'on avait mis en place était complètement débordé. Nous, on s'était retirés, donc, fin juillet, pendant 2 mois à peu près. Et là, bon, on veillait quand même, on essayait de veiller au grain, quoi, mais ça avait complètement dégénéré. Et une fois, une nuit, on était réveillé à 3h du matin, et puis je me suis retrouvé entre un groupe de rockers qui était à moitié rond, et puis des habitants qui, certains, ils s'étaient armés de barres de fer et tout, et puis j'avais réussi à négocier au milieu qui se tape pas dessus, quoi. Et par chance, disons, je connaissais le chef Rocker et que là j'avais réussi à jouer un rôle de médiation, mais peut-être 10 jours après c'était reparti, il y a eu une monstrueuse bagarre et j'avais réussi à protéger les motos des rockers qui eux avaient sauté par la fenêtre du premier étage où ils étaient, quoi. C'était, disons, c'est des scènes qui auraient dû être reconstituées en film, quoi, parce que, disons, des scènes comme ça à Genève, quoi, les gens, je sais pas, de France et tout, ils pourraient pas s'imaginer qu'il y ait des trucs comme ça qui se passent. Je ne sais pas si Christian t'avait connu cette période, et là, donc, le 20 décembre, la police est venue en force avec des bulldozers derrière et ils ont tout démoli le prieuré, donc un bâtiment de 50 pièces. Et nous, c'était assez grand, quoi. Et nous, on a réussi à rebondir, donc en une année, on a réussi à remonter deux associations qui étaient d'une part le CRAC avec Nicolas Wirtz, et qui existe toujours, qui est maintenant au 7 boulevard Karl Vogt, qui est maintenant coopérative. Oui, voilà, il avait acheté l'immeuble en temps, après ça avait été racheté. Jamais, oui. Ouais. Après ça avait été racheté. Quoi. Et moi-même, avec Jen, d'ailleurs, on avait habité donc au début en 75, 77. Et je dois dire, ouais, si on voulait, c'était tout à fait dans l'esprit de 68, autogestionnaire, avec on peut dire que le CRAC jouait le rôle que joue actuellement la Maison des associations. Simplement, il y avait quand même plus de proximité, c'était peut-être plus petit aussi, disons, on se connaissait tous, ce qui est loin d'être le cas actuellement à la Maison des associations, quoi, où c'est beaucoup plus éclaté au niveau des allées et venues, quoi. Et donc le CRAC a été on peut dire, la continuation du prieuré, avec beaucoup d'actions. Donc on continuait de faire les repas une fois par semaine. Il y avait donc toute l'occupation de Crémalville qui avait été décidée donc en 75. C'était lors d'une réunion que j'avais organisée au CRAC, parce qu'on organisait des réunions par tournus à Grenoble, Lyon et Genève. Et puis c'était à Genève que ça avait été décidé. Puis là, c'était quand même un grand truc au niveau, en tout cas francophone, quoi. Et là, je crois que je vais bientôt terminer, hein, mais j'arrive.
Oui, le temps tourne.
Le temps tourne, ouais.
9h35, ouais. Encore une personne.
Ouais. Et je voulais... Ouais. C'est ouais, oui, puis c'est, je voulais juste dire la deuxième association qui existe toujours, c'est la coordination accueil et renseignement, qui est, actuellement je préside depuis une année. Et j'étais donc membre fondateur avec Jen donc en 73. Et puis là, on a un lieu d'information chaque été devant la gare pendant 3 mois, donc tout en haut de la rue de Mont-Blanc. Et on reçoit à peu près 13 000 personnes, surtout des jeunes, mais finalement il y a des gens de tous les âges, au niveau tourisme populaire. Et contrairement à l'Office du tourisme qui vise les 3-4 étoiles et puis qui est strictement Genève, nous on élargit sur le canton de Vaud et sur la France voisine l'information, quoi. Et donc là aussi c'est une association qui continue dans un état d'esprit alternatif. Alors, voilà, je vais peut-être m'arrêter là.
Merci.
Où était le prieuré?
Oui.
C'était,
c'était à la place Chateaubriand, derrière le palais Wilson. Il y a les SI. Et pendant un temps, je ne sais pas si ça existe toujours, il y avait une sorte de crèche.
C'est rue du Prieuré. C'est rue du Prieuré.
Ouais, il y avait un, je ne sais pas si elle existe toujours, la crèche derrière la place.
Sous la rue.
Où est-ce qu'ils ont agrandi la station DSI
Il
y a toujours la rue du Prieuré. Il y a toujours une petite maison, ouais.
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 C'était une villa.
Non, c'était un grand bâtiment de 50 pièces avec une tourelle et tout. Ça servait de centre pour les personnes de troisième âge, quoi. C'était une sorte de
niveau politique,
financier, économique, comme on le constate actuellement. Donc, par exemple, au niveau des caisses de pension, beaucoup de caisses de pension, les travailleurs n'ont aucun contrôle de où a été investi leur argent, par exemple.
Apparemment.
Une alternative crédible au système actuel reste à construire entre toutes les forces sociales. Mai 68 était une ébauche dans ce sens qui montrait l'importance de repartir de la base, ou plutôt des multiples bases de travail et d'habitat. Donc j'ai marqué autogestion plus, en trouvant des modes fédérateurs et de confrontation adéquats afin que les futures révoltes ne restent pas des feux de paille. Parce que, effectivement, un des risques actuels, c'est que il pourrait y avoir des révoltes par rapport à des problèmes d'emploi, de licenciement, etc.
Ouais. Non, c'est vrai. Quoi donc, l'UDC en est une.
Ouais,
c'est un mouvement populaire, l'UDC.
Ouais, mais alors justement, très
ambigu. Ah bah oui.
Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir des révoltes comme ça, mais très sectorielles, et qui peuvent être simplement des feux de paille par-ci. Et, de pouvoir d'avoir une analyse déjà des propositions et que les gens puissent se relier les uns les autres et de relier toutes les différentes luttes qui vont éclore tôt ou tard.
Alors je vais faire mon intervention en trois temps puisque lorsqu'on m'a posé la question sur que j'étais en mai 68 ou en 68, ce que je faisais, quelles conclusions j'en tire aujourd'hui, ça a mis en branle toute une série de souvenirs. Pour moi, il y a trois dimensions. Il y a la dimension personnelle. Et pour moi, 68 à 75 était une phase de transition dans ma vie, où j'étais absent par rapport à ma vie. Il y a une dimension politique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était mai 68, en relation peut-être aussi à moi, mais qu'est-ce que c'était mai 68 en réalité. Et il y a finalement une dimension éthique, ce que je suis devenu aujourd'hui, et j'insiste bien sur le terme éthique et pas morale. Morale est toujours la condamnation d'autrui, dont la gauche souffre actuellement comme de la peste, alors que l'éthique, ce sont un ensemble de règles qui sont valables pour tout le monde, selon les principes de Kant, de l'universalité. Ça n'a strictement rien à voir avec la morale. J'ai horreur des moralistes. Je pense qu'il faut avoir une éthique rigoureuse. Je commence donc sur ma phase personnelle. J'ai un premier souvenir qui me vient à 6h du matin, en 1962. Je débarque à Paris. Il y a une petite pluie fine, et puis le soleil tout à coup luit, et j'entends la chanson de Dutronc, Paris s'éveille. Et j'ai observé dans ma vie que j'ai pour ma part, c'est peut-être une banalité, effectivement des cycles de 7 ans dans ma vie. Et ça, c'était mon cycle entre 21 et 28 ans. C'était mon cycle précédent mai 68, puisque je suis de 1940, donc j'ai eu 28 ans en 1968. C'était une période assez heureuse où je promenais un regard naïf sur Paris, un regard émerveillé. J'allais rencontrer une femme que j'aimais. Nous avons fait un bébé le 13 ou le 14 ou le 15 juillet. Ce bébé est actuellement ma fille, voilà, bien aimée, et c'est peut-être la chose la plus magnifique qui me soit arrivée, en tout cas à cette époque, dans mon existence. J'aborde mai 68 à 28 ans, donc à la fin de ce premier cycle, j'ai tout terminé. Je suis parti à 19 ans de la maison, j'ai payé mes études, j'ai fait mes études, j'ai terminé mes études, j'ai terminé ma formation pédagogique, je suis enseignant, je vais être nommé dans l'enseignement à vie pour l'année suivante. J'ai donc basculé dans une nouvelle période. Ma période qui s'ouvre en 1968 se termine en 1975 par l'effondrement des espoirs sociaux et par l'effondrement de mon couple, puisque ça se termine par un divorce, et pour moi, cette période, une période de transition. Personnellement, je l'ai dit, je le redis, je pense que dans cette période, j'étais absent à moi-même. C'est-à-dire, j'étais pris dans un espèce de maelstrom. J'ai une certaine forme d'intelligence qui me permettait d'essayer de lire les événements, de militer. Mais on a milité d'une manière tellement imbécile qu'on a oublié de réfléchir et de faire la relation entre ce qui nous arrivait, entre ce qu'on voulait projeter sur les autres et ce que nous vivions nous-mêmes. Nous parlions de libération et nous étions une bande de puritains épouvantables, de moralistes effrayants et de gens dangereux. Je pense que la grande chance que nous avons eue à Genève, c'est de n'avoir pas pu accéder au pouvoir à cette époque-là. Si je pense à mes compagnons de lutte, les Daniel Marco, Michel Ducommun plus lointain, Éric Descarreaux, Pierre Force un peu différent, si je pense à mes compagnons de lutte de l'époque, du CLP, etc., je pense que Genève a eu énormément de chance que nous n'ayons pas accédé au pouvoir. Je pense à moi-même aussi, hein, je l'ai dit, voilà. Cette période, première période d'insouciance, je suis rentré dans un monde merveilleux. À 19 ans et demi, je suis parti de la maison, je cherchais un boulot, j'ai trouvé un boulot, je cherchais une bourse, j'ai trouvé une bourse. Je cherchais un logement, j'ai trouvé un logement. Je cherchais un travail, j'étais engagé comme enseignant. Il y avait un type à l'école primaire qui nous appelait le matin. Et il avait, moi je l'appelais Voix d'or, Monsieur Police, vous avez bien dormi, etc. Écoutez, ça nous ferait plaisir. Voilà, c'était le climat avant 68. Et tout à coup, tout s'est raidi, tout s'est rigidifié. Quand je t'entends tout à l'heure, on a affaire à des gens qui croient aux mots « tous les états totalitaires » et « toutes les classes totalitaires », »,« tous les penseurs totalitaires » ont une espèce de paranoïa du mot. Hein. Ils sortent un tract, ils sont simples, lui, ils mettent 100 policiers. Il y a cette espèce de disproportion qu'on aperçoit partout. Hein. Et pour moi, 68, c'est à la fois le moment où j'ai tout fini, cette période de transition, je suis enfin prof jusqu'à ma mort, enfin jusqu'à ma retraite, je suis enfin, voilà, etc. Et ma vie, je ne m'appartiens pas tellement. Donc pour moi, je n'ai pas des souvenirs extrêmement heureux à vous raconter de cette période de mai 68. Nous parlions beaucoup de libération, nous n'étions pas libérés. Nous voulions libérer les autres, nous voulions libérer à la manière que nous avions apprise, enfant, la manière catholique. On va aux missions, etc. Quand on voyait enfin un ouvrier, on pouvait le toucher. C'était fantastique, on pouvait se mettre un ouvrier sous la main. C'était extraordinaire. C'est tout juste si on ne l'a pas coulé dans un espèce de truc en plexiglas, comme ça, pour embaumer l'ouvrier. Donc, sur le plan personnel, pour moi, ça se termine en 1975 par un échec. Et ça se termine par un échec qui est concomitant avec l'échec de cette période qui arrive avec le deuxième choc, choc pétrolier. J'ai vécu sur deux réalités, toujours sur le plan personnel, puisque ma femme était allemande, et nous avons en 1968-69 nous sommes allés en Allemagne, où j'ai passé une année. Et pour moi, c'était quand même une période intéressante dans la mesure où l'Allemagne est structurée totalement différemment de ce que nous vivions dans la Suisse latine. La Suisse latine, vous avez entre les intellectuels, les élites, et puis la base, vous avez tout un échelon d'intellectuels, ce que Gramsci appelle les intellectuels organiques jusqu'à la base, avec des libertaires qui ont quitté l'école primaire à 14 ans, mais qui peuvent écrire des trucs, etc. L'Allemagne, on a ce qu'on appelle, ce que Marx appelle la Deutsche Misere, la misère allemande, c'est-à-dire on a des intellectuels les plus extraordinaires qu'on puisse trouver dans la culture occidentale, des Goethe, des Kant, des gens comme ça, il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est ce que j'ai vécu là-bas, c'est-à-dire à la fois des gens extrêmement déterminés. Les gens que j'étais, ils discutaient à 120, dans le Mitgliederversammlung, on discutait des assemblées, des parcours de manifestation, il y avait des flics d'ailleurs dans l'assemblée, on le savait, on discutait ça, etc. Et il y avait un fer chez les Allemands que j'avais, que je fréquentais, on agissait. Nous, on passait 4 ou 5 soirées à discuter des textes, des virgules, etc. Ils faisaient. Ça, c'était mon premier choc. Le deuxième choc, c'est l'intellectualisme, puisque je vous rappelle que la révolte 68arde, si vous voulez, elle a une connotation tout à fait particulière dans le monde franco-français-latin. C'est la relation entre un mouvement social et le mouvement intellectuel étudiantin, qu'il n'y avait pas en Allemagne. Donc, j'arrivais en Allemagne avec une expérience beaucoup plus importante que mes camarades de lutte de là-bas, parce que ce lien existait. J'étais militant du Parti du Travail depuis mes 20 ans, face à des gens qui étaient plus neufs. Puis d'un autre côté, des intellectuels incroyables. Ils lisaient dans un texte de Lénine, on parlait de Panikok. Tout à coup, il y a un type qui fonçait dans une bibliothèque, qui se tapait les œuvres complètes de Panekok, un obscur type qui avait qui Lénine ou je ne sais plus qui s'en prenait, on ne sait pas pourquoi. Et il y avait cette espèce de truc extraordinaire. J'ai connu Dutschke, j'ai connu, j'ai une image très drôle de Cohn-Bendit. J'étais à Heidelberg, magnifique lieu, et un soir, j'étais là, vous savez, cette belle brasserie allemande avec une niche comme ça, et je vois un type qui gesticulait, un rouquin qui était en bout de table comme ça, et c'était Cohn-Bendit avec une armée, c'était ses camarades de classe qui l'avaient, ils avaient leur prominente, ils avaient leur type, leur effigie, etc. Et je voyais Cohn-Bendit, ça c'est une image que j'ai de Cohn-Bendit. Il y avait donc des aspects drôles, il y avait des aspects intéressants pour moi parce que mes enfants étaient scolarisés en allemand, donc je suis linguiste et ça c'est un aspect qui m'intéressait beaucoup. C'était un moment un peu lumineux, si vous voulez, dans ma vie, ce 68-69, puis ensuite ce militantisme morne où il y avait la question militaire, où on n'allait pas voir les minoteries en se disant ingénument, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Je voyais, comment il s'appelle cet ancien curé là,
Kikerio, Jacques Minot?
Non, l'autre.
Kikerio?
Non, c'est pas Kikerio. C'est gars.
Philippona.
Je vois toujours l'image de Philippona qui tirait une charrette comme ça. Et nous avions un œil malsain. On se disait, qu'est-ce qu'on va faire de ce mouvement, hein? Comment on va contrôler ce mouvement, hein? Donc, je vous donne une image peut-être un peu négative de ma propre personne et de mon mouvement. Un petit peu plus tard, sur le plan personnel, ça prend fin par un effondrement de ma vie, mon divorce, problème des gosses, problème de... Enfin, c'est un divorce, quoi. Quand on a construit quelque chose, c'est pas un truc marrant. Je tombe sur une revue, le Emma. Je vois cette espèce de cinglé, de comment elle s'appelait, de, qui veut couper, voilà, qui voulait couper le zizi à tous les mecs. Je me dis, tout mon entourage, j'ai divorcé l'année de la femme, tout l'entourage dit, t'es coupable, t'es un mec, t'es un phallocrate, t'es coupable, etc. Moi, je me sentais coupable de pas grand-chose. Et puis, je me dis, Ali Schwarzer m'a rendu un très, très grand service. j'ai vu vraiment, pour la première fois, ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas, je ne suis pas un genre coupable. Je ne voulais pas être ce genre coupable, je voulais pas. J'ai une deuxième période, donc je vous dis, j'ai des cycles de 7 ans, et j'ai la période 75-82 où je me refais. Je me refais dans le silence. Mes camarades se mettaient à refaire des textes à pompe. Daniel Marcoux écrivait un truc. Éric Descarreau, avec cette petite écriture crochée, il écrivait des heures et des heures et des heures. J'avais été voir Descarreaux dans son bureau à l'office d'orientation professionnelle. Puis j'ai dit, écoute Éric, on se connaissait depuis l'âge de 16-17 ans. Écoute Éric, moi j'ai quand même des doutes là-dessus, etc. Qu'est-ce que tu penses? Écoute Marco, j'obtenais aucune réponse, je me disais, il n'y avait pas, et c'est très important, de fraternité entre nous, nous n'étions pas fraternels. Donc, j'aborde cette période après 68, cette deuxième période où je me refais. Où je me refais personnellement, dans le silence, j'ai eu des longues périodes de solitude. Bon, j'avais le week-end, je recevais mes gosses, on jouait à la dinette, etc. Je rencontrais des femmes, je trouvais ça merveilleux. Je passais trois mois, ça s'arrêtait. Je trouvais merveilleux de voir ce monde féminin avec les objets, etc. Mais j'étais un peu absent, et puis petit à petit, je me suis refait. Et j'ai découvert une chose qui est fondamentale. Il n'y a pas de militantisme qui soit justifié sans un ancrage véritable. Je fais une toute petite parenthèse ici. Il y a une quinzaine d'années, j'étais au Bain des Paquis, j'étais en train de réfléchir à un article que je devais écrire, une femme vient s'asseoir en face de moi, elle m'importunait parce que j'avais envie de réfléchir à cela, et puis elle se met à me parler, de parler l'anglais. Je parle très très bien l'anglais, mais j'ai des bonnes connaissances d'école. Bon. On discute un petit peu, puis elle était une journaliste de la BBC, elle finissait son reportage. Et puis on a commencé à parler, elle était plus jeune que moi, une quinzaine d'années de moins, elle a commencé à parler de militantisme, de choses comme ça, et elle m'a dit une phrase qui m'a fait tilt, elle a dit « Nous manquions de compassion. Le terme anglais, il est moins connoté religieusement que le terme français. Compassion, sympathie, c'est le même mot, simplement l'étymologie, elle est grecque ou latine, c'est-à-dire subir ou vivre avec. Le militantisme des années 70 était un militantisme terroriste dans le sens que nous ne vivions pas avec. Je vais être dur, pas pour tout le monde, Marielle, pas pour toi, pas pour le mouvement libertaire, mais pour le mouvement, entre guillemets, marxiste, léniniste, je ne sais pas quoi, hein, qui voulait commander. Donc, on manquait... C'est possible, je ne sais pas. On manquait de compassion, et ça, c'est la critique que je fais. Néanmoins, donc si je dis ma période personnelle, 68-75, c'est une période de transition où j'ai eu l'impression d'être un peu absent à moi-même, à ma substance. Si je prends le terme politique, de la dimension politique, c'est la deuxième dimension dont je voulais parler, je dirais ambivalent. Ambivalent parce que, dans cette brève période, mais surtout celle qui a précédé, j'ai énormément appris. J'ai pour la vie des clés d'interprétation et de lecture du monde que je sens que les générations suivantes n'ont pas eues. Et ça, c'est un immense cadeau que m'a fait cette période, mais elle est plutôt pré-68. On a lu des textes, on a agi, on a lié les choses, et ça j'ai appris aujourd'hui quand il se passe des trucs, je ne suis plus dupe, je lis la Tribune de Genève, je lis le temps, je lis à travers les lignes, l'hebdo, etc. Et ça, les clés, je me les suis faites, mais je les ai acquises dans cette période. Donc quand je dis ambivalent, il y avait le côté très négatif, peut-être trop négatif, je vous ai donné une manière de militer, mais il y avait aussi un acquis que nous avons eu et où nous avions sur les générations qui suivaient une avance incroyable et importante. Mais nous étions sans base sociale. Nous étions des espèces de prêtres qui allaient chez les petits nègres. Nous, on allait chez les ouvriers. Etc. Je me suis reconstruit dans cette période à travers de ma profession d'enseignant. Parce que ma profession d'enseignant, elle est une réalité. C'est-à-dire, j'ai en face de moi des élèves. J'avais d'abord des élèves du site, ensuite j'avais des élèves du collège. J'ai des instruments personnels qui sont mon attachement à la culture, qui sont mon attachement à un ensemble de choses. Et il se passe une alchimie entre ces élèves et moi-même. Et je peux vous assurer que toutes les périodes historiques, c'est-à-dire toutes les ruptures, 75 en est une, le choc pétrolier, je les ai senties d'abord dans mes classes. Dans mes classes, la manière de la relation qui se nouait avec le professeur est très différente d'un moment à l'autre. On avait à l'époque des discussions, je me rappelle, en 75, j'avais des 72, j'avais David Hiver dans ma classe, j'avais des gens comme ça. On avait des discussions d'une dureté et d'un respect extraordinaire. Pour les élèves, on était de l'autre côté d'une barrière. Et les élèves, ils disaient, ce prof, il nous manipule, etc. On ne va pas se faire choper, on ne va pas se faire avoir. Et ça les poussait à se battre intellectuellement, pas émotionnellement. 75, il y a un basculement. Tout à coup, on a des élèves qui viennent avec des demandes affectives. Mon premier contact en 1980 avec un élève homosexuel qui m'interpelle, pourquoi il vient s'adresser à moi. Il me dit, vous savez mon problème, M. Pelli, je le revois encore maintenant, vous savez mon problème, c'était toujours sa phrase, il disait, vous savez mon problème, je dis non mais je devine, pourquoi il se confie à moi, qu'est-ce que c'est en 80, aujourd'hui c'est simple de discuter de l'homosexualité, en 80 ça n'allait pas du tout. En 80 il me dit, vous savez M. Pelli, mon problème, il n'a jamais parlé d'homosexualité, il est mon problème. Et puis on commence à discuter, puis après j'ai eu un deuxième élève, puis après j'ai eu un troisième élève qui me confie à moi, et puis voilà. Puis j'ai découvert ce qu'on appelle les libertés secondaires, et c'est, j'en viens à l'analyse politique, il y a de Régis Debray une phrase terrible, puisqu'il n'était pas là en 68, il était en prison à Camiri. Régis Debray a dit, 68 c'est l'accouchement de la société libérale. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que c'est la société libérale ? La société libérale, c'est la conquête de tout un ensemble de libertés qu'on appelle les libertés secondaires. Les libertés premières, c'est liberté d'établissement, liberté d'expression, liberté de circulation, etc. Elles ont été acquises, en tout cas en Suisse, depuis longtemps. Les libertés secondaires, c'est les femmes. Quand moi, on est allé faire un compte en banque avec ma femme en 1960, ma première femme, eh bien, j'ai dû signer pour elle. Hein? Ça dit quelque chose. L'homosexualité aussi est un gros problème. Moi, il m'a été posé par mes élèves. Je suis reconnaissant à mes élèves m'ont posé ce problème. Et je vois toujours ce premier élève qui me disait, vous savez mon problème, M. Pelli, je le rencontre encore de temps en temps maintenant, et je le vois dans les couloirs du collège Voltaire, il avait 20 ans, il revenait du service militaire, et puis il avait voulu rencontrer un ami, il était allé dans une boîte homo, et puis il me raconte son histoire, et puis il me dit, Monsieur Pelli, moi, ce que je veux, c'est pas me faire michetonner. Monsieur Pelli, je veux de l'amour, j'ai droit à l'amour. Et tout à coup, c'est cet élève qui m'a fait prendre conscience que l'homosexualité est une forme d'amour aussi et ne se réduit pas simplement à une copulation d'une manière différente, etc. Les autres libertés, c'est celle de la femme. On les a pris en pleine poire, ces libertés. Parce que tout à coup, on militait, nous, on était des chefs, on commandait, et puis les femmes nous disaient, non, mais nous, on n'est pas là pour vous distribuer vos tracts et puis vous faire mon machin. Allez vous faire, surtout en Allemagne. En Suisse romande, elles étaient gentilles. En Allemagne, elles étaient très déterminées. Et puis, elles nous ont remis un peu les pendules à l'heure. L'analyse politique que je fais aujourd'hui, c'est que mai 68 a été l'accouchement. Enfin, 68 a été l'accouchement de la société néolibérale. La société néolibérale, dans son ambiguïté que nous vivons aujourd'hui, dans son ambiguïté qui est à la fois la conquête, comme je l'ai dit, des libertés secondaires, je pense à la dupsie dans laquelle tu militais, c'est-à-dire que les fous sont aussi des personnes, c'était la revendication extraordinaire à l'époque, les fous sont des personnes, alors qu'au Moyen-Âge, ils l'étaient. Hein? Mais tout à coup, les fous sont des personnes. Hein? que je vous rappelle quand même que les Suisses de la Constitution étaient, nous étions tous égaux, mais les Juifs ne faisaient pas partie de cette égalité dans la Constitution au départ. Hein? Et tout ça, il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait, et puis dans l'autre sens, c'est l'individualisme, c'est machin avec son Walkman, c'est l'absence de solidarité, c'est l'absence d'un tout un rituel que j'avais découvert au Parti du Travail. Je me rappelle toujours au Parti du Travail, je faisais une conférence en 1960-61 sur le problème atomique dans une section, hein, on allait, et puis je pensais qu'il fallait faire très pop. Bon, j'ai moi-même d'un milieu populaire, mais je parlais un peu relâché. Et un petit bonhomme, il était tailleur, il avait des lunettes toutes rondes, comme ça, ses yeux pétillants, il a une septantaine d'années, il me dit « Camarade Marco, tu as de la chance de faire des études. Tu as le privilège de faire des études. Camarade Marco, sois gentil avec nous. Parle-nous en bon français. » Il y a une composante de cette gauche marxiste. C'est la croyance dans la culture. C'est la croyance dans le savoir. Quand je vois mes camarades dans l'enseignement, mes camarades de gauche, Charles Baird en tête, qui sont tombés dans un espèce de galimatia bêtifiant, réduisant l'élève à un espèce d'assisté, c'est tout juste si on ne va pas lui mettre un pagne bientôt, ce sont des obscurantistes, ils donnent le haut du pavé. Nos camarades qui ont milité au nom de la libération, etc., sont des obscurantistes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants durs, d'avoir des enseignants exigeants. Sans eux, j'aurais jamais fait d'études du milieu d'où je venais. L'autre que j'ai vécu, l'autre déviance que j'ai vécue de la gauche dans ma profession, c'est réduire les enseignants à leur composante de travailleurs. Nous sommes des travailleurs. Non, c'est pas vrai. Les enseignants ont une fonction sociale, ont une fonction culturelle, ils ont une relation avec la culture, ils sont des ambassadeurs du savoir et ils ont une réalité social, salarial, etc., comme on le voit, c'est un des actes. Mais ils ne sont pas réductibles à l'une de ces deux composantes. J'en arrive à un autre élément politique encore que j'ai vécu en Allemagne. J'étais confronté au terrorisme, puisqu'il y avait deux lieux mythiques du terrorisme en Allemagne, c'était Berlin et Heidelberg. Et on avait dans le rituel de l'anti-autoritarisme des années 68-69, puis c'est comme ça que la rupture s'est faite, il y avait les Mitgliederversammlung, les assemblées de membres, à 120 personnes, on discutait des parcours de manifs, etc. Et un jour, quelqu'un s'est ramené avec une cassette de Bader, ou quelqu'un de la bande Bader-Manif, et a diffusé cette cassette. Moi, je me disais, je fais quoi avec ça? Et j'ai observé que les gens qui ont été sensibles, les terroristes, la première génération, parce qu'il y a eu plusieurs générations de terroristes, et ce n'est pas les mêmes, les Holger Mainz, les gens comme ça, Ulrich Meinhof, étaient tous des premiers de classe. Étaient, Ulrich Meinhof, ce n'est pas évident, Bader non plus, mais les autres, toute la deuxième garde, Ensslin, Gudrun Ensslin, etc., sortaient du milieu de parents, du milieu judiciaire, du milieu, donc des parents de la bourgeoisie, de robe, enfin, je veux dire, c'est pas la bourgeoisie de pouvoir, je veux dire, la bourgeoisie de pouvoir, c'est pas la bourgeoisie d'argent, nécessairement. Très sensible, Holger Mainz s'est laissé mourir dans une prison, il est mort de faim, se laisser mourir, et c'était des types très fins. Moi, j'en ai connu, j'en ai deux ou trois camarades qui ont été flingués par la police en 1972 dans la chasse aux terroristes. Qu'est-ce que je fais avec le terrorisme? Bien, moi, depuis, de par mes origines et ma politique, je commençais à raisonner, je dis, fais quoi? Terrorisme, d'abord, quand je voyais ces gens, je disais, moi, je ne me sens pas concerné. Ils résolvent un problème émotionnel, personnel. Mon puritanisme marxiste m'a quand même protégé avec cette ambivalence qu'il avait. Et je raisonnais de la manière suivante, je me disais, les terroristes, ils croient changer le monde, conscientiser, vous rappelez ce terme conscientiser, par la violence, etc. Ils sont manipulés. Lorsqu'est arrivé l'assassinat d'Aldo Moro, j'ai immédiatement eu la lecture. Il y a une année, une émission extrêmement intéressante. Moi, je l'ai eu en 72, cette lecture. J'ai dit, c'est l'extrême droite qui veut se débarrasser d'Aldo Moro et qui a manipulé ces couillons des brigades rouges. Ben, c'était des couillons. Dans les brigades rouges, il y avait Negri d'un côté, l'idéologue, mais est arrivé ensuite, ce qui est des gens qui étaient, il faut le dire clairement, la deuxième garde, c'était des voyous. Ils sont arrivés des voyous, puis eux, ils disaient, allez, on va descendre ce Moro, il nous fait chier, sale bourgeois, sale con. Les textes de Moro, je vous engage à les lire. Je vous engage à lire le bouquin de Léonard de Chache à l'affaire Moro, par exemple, etc., qui sont des analyses fines. Or, moi, j'ai eu la chance, grâce à ma culture marxiste, de faire une analyse à l'époque qui m'a barricadé idéologiquement contre le terrorisme. Mais, et j'en arrive à la conclusion de ce que je voulais dire, j'en arrive à l'aspect éthique. La réalité m'est venue par la suite dans l'éthique. L'éthique, c'est un ancrage. L'ancrage dans une réalité que j'obtenais déjà de par ma profession, que j'obtiens aujourd'hui, je suis acteur, je suis metteur en scène, je suis etc., que j'obtiens dans une réalité sociale avec des gens que je comprends, des gens avec lesquels je travaille, et je sais d'où je sais que je suis suisse, que moi j'entends Ziegler, que j'aime bien par ailleurs, qui m'agace énormément pour d'autres aspects, que j'entends Ziegler qui va raconter en France, vous savez, la Suisse, c'est des copains pleins, etc., etc. Puis les Français disent, ah ben ouais, qu'est-ce qu'il est sympa, ce type, etc. Hein, moi, ça m'emmerde. Je suis suisse, je suis trilingue, je suis fils d'un Tessinois, d'une Suisse allemande, et j'ai grandi à Genève, au quartier des Ouïes, avec l'accent genevois, et c'est là, à partir de là, que je me construis. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de solidarité avec les autres. Ça veut dire que de nier son identité, de nier son origine, ne permet pas de lire l'histoire. Et alors j'en viens à donner quelques éléments de mon éthique, avec un petit sourire en coin, alors que je me croyais encore un militant pur et dur, personne ne la ferait. Je me rappelle toujours mon camarade Alain Cap, à l'Union du Corps Enseignant, un jour il me dit, au fond Marco, t'es un démocrate. Mon Dieu, un démocrate, moi qui me croyais un grand révolutionnaire, je suis un démocrate. Oui, je suis un démocrate. Je suis un démocrate. Et aujourd'hui, j'en suis fier, c'est une valeur à laquelle j'adhère. Je ne suis pas un démocrate simplement pour le suffrage universel, je suis, comme le disait Régis Debray, un démocrate avec un contenu de la solidarité, avec un contenu de la compensation des inégalités sociales, avec un contenu, mais un démocrate, on n'obtient pas les choses par la violence. Je vois tout à coup, je discute avec des collègues, des camarades, des anciens camarades, des FARC. Voilà. C'est bien, ils nous défendent, les FARC. Ils se sont enfermés complètement dans un système de corruption. C'est des terroristes, les FARC. Ils vont se faire casser la gueule. C'est terrible parce qu'ils sont porteurs d'une réalité sociale terrible, mais ils l'ont complètement saboté, ces petits cons. Et ils se sont enfermés, ils vont se faire massacrer, ils vont donner raison à Uribe. Ils ont fait élire Uribe en séquestrant. Être plus imbécile que ça, c'est pas possible. Je vois d'autres camarades, Champ par exemple, qui nous parle de son camarade Mukabe. Hein? C'est quoi Mukabe? C'est un cinglé. C'est un psychopathe complet qui a un carafon comme ça. Et puis le racisme, il n'est pas que blanc, le racisme, il est noir. Quand les noirs commencent à dire le sida, c'est une invention des blancs, etc. Et je vois toute une gauche péate qu'elle a, puis qui dit, ah ben c'est très bien une fois, parce que les blancs, ils sont coupables une fois, hein. Les blancs ne sont pas coupables. La culpabilité, ce que je voulais dire par rapport au moralisme, c'est ce qui empêche de réfléchir, ce qui empêche d'exister, aussi bien les femmes quand elle se sentait coupable d'être femme, que les gens, que les militants, etc. Il faut se débarrasser, il faut une éthique, il faut une analyse. J'ai, pour conclure, je suis ancré, je suis un fils d'artisan, j'ai mis 60 ans à le découvrir, je suis ancré L'artisan, c'est quelqu'un qui fait. Un enseignant est un artisan, c'est pas un intello. C'est un intello, oui, bien sûr, dans son rapport à la culture, mais quand on a des abrutis qui viennent nous servir des théories à hurler de rire, moi je suis licencié en philosophie, quand je lis les théories de ces abrutis, c'est à hurler de rire. C'est comme si quelqu'un chantait faux la gamme de sol ou je ne sais pas quoi. Et les abrutis, les méthodologues, les types comme ça, qui veulent croire qu'on fait une théorie, puis on applique une théorie dans sa classe. Ce n'est pas vrai. L'enseignement, c'est comme le métier de mon père. Mon père, il regardait la couleur du chocolat, il était chocolatier, il voyait au dixième, au centième de degré, avec l'œil, si son chocolat, il avait la bonne température, autrement en refroidissant, il devenait gris, etc. Le professeur, c'est quelqu'un qui a une culture et qui a des centaines d'actes professionnels qu'il acquiert par ses camarades, par ses collègues, par compagnonnage, etc. Et ce n'est pas un type qui arrive avec une théorie. Les théories, elles masquent la réalité, parce que ce ne sont pas des théories. Une vraie théorie, c'est une hypothèse qu'on va vérifier dans la pratique, en science, etc. Ça, ce n'est pas des théories, c'est des élucubrations idéologiques. Et je me reconnais aujourd'hui fils d'artisan. Je fais du théâtre, c'est aussi un métier artisanal, avec la volonté de faire que les choses existent. Je ne suis pas philosophe pour rien, je peux encore lire Kant, etc. Mais ce n'est pas des théories abstraites qui font avancer la réalité, c'est un aller-retour constant et c'est cet ancrage. Voilà ce que moi j'ai appris de cette période au bout d'une vie, quand même, j'ai 68 ans, le bilan que je fais. Merci.
Je suis un peu dur pour mes camarades.